France Inter.
Soyez les bienvenus, c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand l'espoir renaît des cendres, on vous emmène ce matin à Boutcha, ville de sinistre mémoire en Ukraine. Elle est en pleine reconstruction, sans oublier ses fantômes, mais avec une volonté farouche d'aller de l'avant. Reportage dans un instant. Lyon sous les eaux, nous sommes à Tonnerre, où la crue a atteint son pic hier soir. Mais les eaux de l'Armançon et du Serein vont continuer à monter en aval. La une ce matin, c'est aussi le projet de loi agriculture en Conseil des ministres qui doit notamment faciliter les transmissions. Les excuses du président israélien après la mort de 7 humanitaires à Gaza. L'armée reconnaît avoir commis une grave erreur. Des bagages payants même en cabine. Aujourd'hui c'est la compagnie Transavia qui s'y met. Et puis la richesse de la culture aztèque au musée du Quai Branly. Splendide exposition sur la civilisation mexica.
8h20, ce sera le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invité tout à l'heure.
Un géant, un des derniers monstres sacrés d'Hollywood, Avatar, Titanic, Terminator, Alien le Retour, Abyss, c'est lui. Une grande exposition sur son art et ses films ouvre ses portes à la Cinémathèque à Paris. On est très très heureux de recevoir à 8h20 James Cameron.
Et vos questions, dialoguez avec lui, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'était il y a 2 ans, la guerre en Ukraine venait de commencer. Le monde découvrait l'horreur de l'invasion russe à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Un mois d'occupation, 500 civils assassinés par l'armée de Vladimir Poutine. Boutcha, ville martyre. Aujourd'hui, ses habitants refusent de s'enfermer dans ce cauchemar. La ville se reconstruit et tente de tourner la page. Il y a de l'espoir dans ce reportage d'Agathe Mahuet.
Cela fait 4 mois qu'il rénove le quartier, Dmitri. Isoler les façades, les fondations, remplacer toutes les fenêtres de ces habitations criblées de balles il y a 2 ans. Le chef de chantier est fier.
Le pays est encore en guerre, mais nous sommes déjà en train de nous relever.
Mais certains s'interrogent. Sergueï vit là depuis toujours.
Il faudrait plutôt investir cet argent dans l'effort de guerre. Il nous change nos fenêtres, ça ne nous coûte rien, ok. Mais si Poutine revient, à quoi bon ?
Au coin de ces rues qui avaient fait le tour du monde, des cadavres dans l'une, des chars calcinés dans l'autre, Ludmila, elle, respire enfin un peu. Toute cette rénovation, pour moi, c'est comme une nouvelle vie, dit-elle. Les Russes ont occupé puis brûlé sa maison et tué son mari.
Mais bientôt, ce sera comme neuf. Et même s'il s'est passé des choses terribles ici, je veux y rester.
2000 bâtiments de la région de Boutcha ont déjà été retapés. Le financement, l'État et la ville à 90%, indique Dmitro Tchetchouk, l'adjoint à la rénovation.
Nous ne voulons pas que Boutcha reste une ville martyre. Bien sûr, on n'oubliera jamais ce que les Russes ont fait ici. Mais nous voulons être ce symbole de renaissance et montrer l'exemple à toute l'Ukraine que l'on peut se relever rapidement.
Reconstruire et se souvenir. La ville vient d'inaugurer aussi un nouveau lieu de mémoire pour ses centaines de victimes.
Un reportage à Boutcha, signé Agathe Mahuet et Yachar Fazilov. Vladimir Poutine et la Russie répondront-ils un jour des crimes commis en Ukraine à La Haye ? Un bureau d'enquête a ouvert l'été dernier pour collecter des preuves et instruire un futur procès. Angélique Boin, c'est la première fois qu'un tel travail est mené si vite dans un conflit, presque en temps réel, alors que la guerre n'est pas terminée.
Basés à La Haye, enquêteurs et procureurs ukrainiens collaborent avec des homologues européens et depuis peu une magistrate américaine. En lien avec leurs équipes sur le terrain, ils collectent, analysent et classent des centaines de milliers de preuves. Images satellites d'immeubles éventrés, vidéos ou photos prises par les victimes ou bien postées sur les réseaux, parfois par les bourreaux eux-mêmes, enregistrements de conversations téléphoniques interceptées par des militaires. Tout cela s'ajoute aux auditions et aux preuves apportées par les victimes et témoins des tueries, des viols et des exactions, des témoignages recueillis sur place en Ukraine, mais aussi auprès de réfugiés partout en Europe. Leur numérisation permet de croiser les preuves, d'identifier les témoignages les plus fiables et ainsi d'établir des faits. Au sein d'un centre judiciaire dédié, l'équipe internationale de procureurs prépare les fondations d'un futur procès de Vladimir Poutine et de son cercle rapproché. Il faudra néanmoins pour cela créer un tribunal spécial dont le contour juridique reste à déterminer.
Angélique Boin, correspondante de France Inter à Bruxelles, où se réunissent aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères membres de l'OTAN pour discuter d'un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans, aide à l'Ukraine dans la durée.
Il est 8h06 en France, Florence, la Bourgogne n'en a pas fini avec les crues.
Dans l'Yonne, l'eau va donc continuer à monter en aval de Chablis et de Tonnerre, prévient la préfecture. Chablis envahi par le Serein, le pic de la crue a eu lieu à 21h hier soir. Une heure plus tard, c'est l'Armançon qui atteignait son niveau le plus haut à Tonnerre, où l'on rejoint Ajra Mohamed. Bonjour Ajra.
Bonjour Florence.
L'eau a cessé de monter, son niveau est stable ce matin, mais le record de 2013 a été battu.
Oui, 2,95 m, c'est le niveau atteint par l'Armançon à Tonnerre. C'est 15 cm de plus que la crue de 2013. Alors hier soir, on a vu des Tonnerrois sortir de chez eux pour immortaliser ce moment en photo, en vidéo, comme Julien, téléphone à la main.
Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. J'ai toujours vu ça à la télé, mais là, je vois ça en vrai, c'est un truc de fou.
Là, normalement, c'est comment ?
C'est un parking ici. Bah là, c'est plus un parking, c'est une piscine. Bon, ça va, on habite en haut, donc on est... Voilà, mais pour ceux qui sont là, je les plains, quoi.
Et parmi les plus à plaindre, il y a Cyril. Le sous-sol de sa maison est envahi par les eaux.
En une heure, je pense qu'on a pris 20 cm. Quoi. Et j'ai vu l'eau qui montait sur la route. Voilà, il faut vite enclencher. Quoi. Et puis du coup, j'ai appelé la mairie.
La mairie de Tonnerre, bonjour. C'est comment votre nom, madame ? Ok. Ben, je vous envoie des personnes.
Un appel à la mairie pour qu'elle l'évacue vers le gymnase mis à disposition. Au total, une vingtaine d'habitants ont été évacués. Dans le calme, aucun blessé. Le travail de prévention mené depuis lundi matin a payé, estime le maire de Tonnerre, Cédric Lèche.
C'est le dispositif d'information sur les réseaux sociaux de la ville. C'est le dispositif SMS de la préfecture. Les appels téléphoniques qu'on a pu faire, les porte-à-porte avec les élus. Donc, je crois que pour l'instant, ça a marché. Et plutôt rassuré là maintenant.
Rassuré, mais attentif toujours, alors que la décrue ne devrait s'amorcer qu'en fin de matinée ici à Tonnerre, où la pluie tombe de nouveau ce matin.
Ajra Mohamed en direct de Tonnerre, dans l'Yonne, avec Eric Audra. Les crues se déplacent désormais vers l'Yonne, la rivière qui se jette dans la Seine. La Seine va donc monter dans les jours qui viennent à Paris. La répétition de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques prévue lundi prochain a été reportée au 27 mai. Faire entrer la souveraineté alimentaire dans la loi, attendue depuis un an, le projet de loi d'orientation agricole arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Réponse à la crise de la profession. Le texte ambitionne de simplifier la vie des agriculteurs en accélérant les procédures de contentieux, en imposant une seule réglementation sur les haies ou encore en facilitant les transmissions d'exploitation. Alors qu'un tiers des agriculteurs va prendre sa retraite dans les 10 ans qui viennent, un guichet unique sera mis en place pour les repreneurs, l'idée étant de gagner du temps, car passer la main même à ses propres enfants, c'est long et compliqué. Illustration avec cette famille de Saint-Léger dans l'Oise, signé Mathilde Imi.
Allez, on y va. Allez.
Elles ne rassembleront plus les vaches ensemble. Isabelle, 63 ans, part à la retraite, fière mais soucieuse.
On était contents qu'elles reviennent sur l'exploitation, sinon on cédait un étranger. Ça aurait fait un petit pincement au cœur quand même. Surtout que ça fait 3 générations qu'on est là. J'espère qu'ils vont s'en sortir.
Elle a quand même tenté de m'en dissuader, sourit sa fille Armelle, 24 ans.
Quand on voit nos parents galérer, on se pose toujours des questions, mais dans le fond, ça reste quand même une évidence.
Armelle prépare cette reprise depuis un an.
De faire ça en un an, c'est très dur. Tous les documents, il faut les scanner, c'est long.
Il a fallu rassembler les signatures des 15 propriétaires de leur terrain, remplir les dossiers d'organismes se renvoyant la balle, se former aussi pour toucher l'aide d'installation de l'État et rencontrer banques et assurances, raconte Armelle.
Il y a beaucoup de pression. On se demande si on a tout bien fait. On traite des vaches alors qu'on ne sait même pas à quel prix on sera payé le mois prochain. Pendant ce temps-là, quand on s'installe, on nous demande un prévisionnel sur 4 ans. C'est énervant, c'est usant.
Et trouver surtout un juste prix de rachat avec ses parents.
On rachète les vaches, le prix des semences qui ont déjà été semées, l'engrais, les traitements phytopharmaceutiques qui ont déjà été mis, et puis le matériel aussi.
Une fois les prêts remboursés, ses parents chercheront une nouvelle maison avec la promesse de pouvoir revenir donner un coup de main à la ferme.
Mathilde Dehimi, le projet de loi présenté ce matin est déjà critiqué par les syndicats d'agriculteurs, pas assez ambitieux sur la compétitivité selon la FNSEA. La Confédération paysanne déplore de son côté un détournement du sens premier de la souveraineté alimentaire.
8h10, à l'Assemblée, verra-t-on les images de Gaza dévastées par la guerre.
Le député Aymeric Caron, apparenté la France Insoumise, travaille à rassembler des images tournées sur place pour documenter les atrocités, dit-il, commises par l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne et les montrer aux représentants de la nation, Claire Flochel, comme le furent les images des attaques du Hamas le 7 octobre.
il y a trop peu d'images sur la situation à Gaza depuis 6 mois, sur ce que vivent les Palestiniens. C'est ce que pense le député Émeric Caron.
La guerre que subissent les Palestiniens à Gaza est totalement invisibilisée par les médias traditionnels. Ces images, elles existent, elles sont diffusées en masse sur les réseaux sociaux, par des Palestiniens qui sont sur place, par des journalistes, même si beaucoup d'entre eux ont été tués.
En novembre dernier, ce sont les images des massacres commis par le Hamas qui avaient été diffusées à l'Assemblée. Le député ancien journaliste veut donc aussi montrer ce qu'il se passe à Gaza.
L'idée n'est pas de faire un parallèle morbide avec le film des atrocités du 7 octobre, mais c'est en revanche de dire qu'en effet, si il a été jugé utile d'informer les parlementaires en leur montrant les images des massacres du 7 octobre, il est tout à fait logique qu'on les informe également en leur montrant les atrocités que subissent aujourd'hui les Palestiniens. Ce n'est pas une démarche qui cherche à créer la polémique.
La projection du film pourrait avoir lieu avec le soutien du groupe d'études France-Palestine à l'Assemblée. Émeric Caron a fait part de son projet à son président, le MoDem Richard Ramos.
Il y a une procédure au Parlement, il faut que les images soient bien codifiées, qu'on n'accuse pas le groupe d'amitié, j'ai envie de dire, de mettre de la propagande fausse, et après le groupe se réunira pour prendre sa décision. Mais je pense que c'est une bonne initiative d'Émeric Caron.
La présidente de l'Assemblée ne semble pas non plus contre. Interrogée sur le sujet, Yael Braun-Pivet répond que les députés sont parfaitement libres d'organiser les projections qu'ils souhaitent.
Claire Flochel, et hier soir, l'armée israélienne a donc reconnu une grave erreur après avoir tué 7 humanitaires lundi lors d'une frappe dans l'enclave. 3 Britanniques, un Américano-Canadien, un Polonais, une Australienne, un Palestinien. Ça n'aurait pas dû se produire, assume le chef de l'état-major en Israël. Le président Yitzhak Herzog a présenté ses excuses hier soir. Au moins 4 morts, 60 blessés et 2 immeubles effondrés à Taïwan, qui a connu il y a quelques heures son plus puissant séisme depuis 25 ans d'une magnitude supérieure à 7. Le risque de tsunami a été rapidement écarté.
Il est 8h12, Florence, quand les petits suppléments font les gros profits.
Ainsi, votre bagage a payé en plus du prix de votre billet d'avion quand vous voyagez sur les low cost, en soute comme en cabine. À partir d'aujourd'hui, tout devient d'ailleurs payant chez Transavia, Philippe Lefebvre.
Désormais, Transavia vous fera payer entre 10 et 15 euros si vous souhaitez garder votre bagage en cabine. La filiale low cost du groupe Air France KLM s'aligne ainsi sur les tarifs des autres compagnies à bas coût qui facturent les bagages cabine depuis plusieurs années. Et du côté de la compagnie française, on affirme que cette décision a été prise en partie pour éviter les retards des avions. Nicolas Hénin est le directeur commercial de Transavia.
Ça devenait très compliqué opérationnellement de gérer beaucoup de bagages cabine en porte d'embarquement et ça avait tendance à mettre de plus en plus nos avions en retard. On a 189 sièges, on peut pas mettre 189 bagages dans l'avion. Donc il y avait un certain nombre de bagages qui, au dernier moment en porte d'embarquement, on devait descendre en soute. Et ça, c'est vrai que ça générait beaucoup de temps et parfois ça faisait un peu déraper nos processus d'embarquement.
Mais c'est aussi une opération très rentable pour les compagnies low cost qui peuvent ainsi gagner beaucoup d'argent sans investir le moindre centime. Faire payer les bagages en cabine peut en effet rapporter en moyenne plus de 50 millions d'euros par an et cela peut monter jusqu'à plus de 89 millions pour certaines compagnies pour qui nos valises valent de l'or.
Philippe Lefebvre, réparer plutôt que jeter, c'est le mantra du moment écologique économique et l'on découvre que l'on manque de certaines filières. Impossible, par exemple, de réparer les panneaux solaires de nos centrales photovoltaïques. Une start-up s'y est donc mise, en Savoie, dans les locaux du commissariat à l'énergie atomique qui finance son travail. Un reportage au Bourget du Lac, Rémi Brancato.
Dans ce grand laboratoire, on répare le câble d'un panneau solaire.
On vient le mettre dans la chambre et on serre, tout simplement.
Hop. Une fois réparé sur son écran, Jean-Patrice Rakotoniaina, chercheur au CEA, vérifie que les cellules captent bien l'énergie.
C'est comme une simulation du soleil. On appelle aussi le simulateur solaire, on l'appelle flash test.
C'est Sol Reed, la start-up de Luc Federnozzi, qui multiplie les tests ici.
Donc on injecte du courant et on va observer l'émission de lumière par le module photovoltaïque. On vérifie que la réparation, elle est durable.
Résultat, 99% des panneaux refonctionnent et pour 15 ans, William Arkwright en a fourni plus d'une centaine, le directeur général d'Engie Green espère avoir trouvé la solution pour réparer dans ses centrales solaires.
Sur 6 millions de panneaux, par an, on a 2000 panneaux qu'on remplace. Ils ne sont pas réparés jusque-là. Quand on les remplace, en fait, on se tourne vers les fournisseurs. Ils nous disent systématiquement, la seule chose qu'on peut faire, c'est de nouveaux panneaux.
Mathieu Verdon, l'autre cofondateur de Sol Reed, promet une offre 30% moins chère que l'achat d'un panneau neuf.
Réparer un panneau à l'échelle d'une centrale sur 10 000, 15 000 modules en exploitation, de savoir comprendre, identifier
fabriqué, quel est le type de défaut. Nous sommes les seuls à pouvoir le proposer.
Une réparation qui permettrait de réduire d'une tonne 8 les émissions de carbone sur la durée de vie d'un panneau solaire.
Rémi Brancato, l'OL en finale de la Coupe de France. Hier soir, les Lyonnais ont battu Valenciennes, club du bas du tableau de la Ligue 2, 3 buts à 0. Il aura fallu attendre la 51e minute pour voir le premier but de l'OL signé Lacazette sur un pénalty contesté par les Valenciennois mais confirmé par la VAR. Ce soir, PSG Rennes pour la seconde place de finaliste. Enfin, si vous aimez Tintin et le Temple du Soleil, vous allez adorer cette nouvelle exposition du musée du Quai Branly à Paris, au cœur d'une civilisation précolombienne, Mexica, des dons et des dieux au Templo Mayor, présente pour la première fois en Europe les trésors exhumés des fouilles de Mexico depuis la fin des années 70. Une plongée dans la culture aztèque de cette civilisation Mexica. Alexis de Meyer y est allé en avant-première.
Des squelettes sculptés dans la pierre volcanique, des masques fabriqués avec des crânes humains. Bienvenue dans le monde des morts, au cœur des croyances aztèques. En 1521, Tenochtitlan est rasé par le conquistador Hernán Cortés et l'empereur Cuauhtémoc capturé. Leonardo López Luján, commissaire de l'exposition.
La ville de Tenochtitlan avait une superficie de 13 km² et une population de 200 000 habitants. Et c'était une ville immense. Pour l'époque, il s'agit d'une exposition inédite parce que beaucoup d'objets que nous venons d'exhumer, c'est la première fois qu'on le montre en Europe. Même il y a quelques objets que nous n'avons pas montrés encore à Mexico.
Et notamment des squelettes d'enfants, âmes sensibles s'abstenir. Les sacrifices humains sont en effet des symboles de la culture aztèque, mais jusqu'à la caricature.
La quantité des victimes que nous avons récupérées jusqu'à nos jours dans les offrandes n'a rien à voir avec les chiffres des sources historiques écrites par les Espagnols, évidemment pour justifier la conquête et la colonie pendant 300 ans.
Et justement, les massacres, l'esclavage et l'évangélisation du peuple aztèque sont évoqués en détail dans la dernière partie de cette très belle exposition qui rassemble plus de 500 pièces extraites du sous-sol de la capitale mexicaine.
Voilà l'exposition Mexica à voir absolument au musée du Quai Branly. Vous avez jusqu'au 8 septembre.
Merci Florence Paracuelos. Peintre, dessinateur de BD, Jean-Marc Rochette a délaissé le crayon pour écrire son premier texte littéraire au cœur de l'hiver. Il sera l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 9h20. La météo tout de suite, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et c'est encore instable sur les trois quarts du pays ce matin, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas, les pluies arrivées arrosent encore ce matin le flanc est et sont plus copieuses. Des Hauts-de-France au bassin parisien, au Grand Est, jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté, plus épars sur les Alpes, ça donne de la neige à 1600 mètres, avec toujours Lyon qui est en vigilance rouge et la Côte d'Or, l'Aube et la Haute-Marne en orange. Sur le nord-ouest, le ciel va alterner en matinée entre éclaircies et averses, accompagné d'un bon vent d'ouest. Et enfin, sur le sud de l'Aquitaine, à l'Occitanie, bonjour James Cameron.
Bonjour. Il n'avait pas vu que les micros étaient ouverts.
Le soleil sera donc plus généreux, avec une ondée possible quand même en Provence. Dans une certaine douceur, il fait déjà 13 à Nantes, 14 à Trois-Villes dans les Pyrénées-Atlantiques, mais 2 à Felon sur le territoire de Belfort.
Et arrivée d'une nouvelle perturbation cet après-midi.
Oui, on a une tempête baptisée Olivia qui sévit au large de l'Atlantique et qui génère une dépression qui va rentrer par la Bretagne avec pluie et vent alors que les nuages domineront sur les trois quarts nord du pays, donnant parfois une ondée avec plus d'averses dans l'est et du vent, voire même un coup de tonnerre sur la Bourgogne et de la neige sur les reliefs alpins, alors que sur le sud-ouest, au sud des Alpes, à la Méditerranée, à la Corse, le soleil sera généreux avec une averse possible sur les Pyrénées. Il va faire de plus en plus doux, Nicolas. 13 à Belfort, 14 à Quimper, à Trouville comme à Ars-en-Ré. Vous aurez 17 à Paris, à Lyon ou à Nice, 20 à Montgiscard en Haute-Garonne, comptez 20 à Biarritz jusqu'à 23 à Perpignan. Vous savez qu'on va avoir un pic de chaleur vendredi et samedi en se rappelant que si le coucou arrive à découvert, il y a peu de paille et beaucoup de blé. Bonne émission.
Merci beaucoup Marie-Pierre Planchon. 8h19, géopolitique.